VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord le journal. Crise burundaise, les trois experts de l'enquête indépendante de l'ONU sur les violences au Burundi ont achevé leur mission de 8 jours dans le pays. Ils affirment que le Burundi est à la croisée des chemins et que l'espoir renaît dans la population. Ces experts ont souligné lors d'une conférence de presse qu'ils reviendront encore à Bujumbura au mois de juin et de juillet et qu'une équipe de 9 observateurs des droits de l'homme pourrait être déployée très prochainement sur place. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Ces experts ont rencontré au cours de leur visite les membres du gouvernement, des dirigeants des formations politiques, des groupes de la société civile ainsi que des victimes de violations des droits de l'homme. Ils ont également visité une prison à Gitega au centre du Burundi où sont détenus les prisonniers accusés d'implication dans le coup d'état manqué du 13 mai 2015. Mais pour l'expert sud-africain Christophe Heinz, l'avenir du Burundi va dépendre de ses performances dans le domaine des droits de l'homme où le combat contre l'impunité doit être quotidien. Pour l'Algérienne Maya Sahali Fadel, qui fait partie de la délégation, la situation n'est pas aussi explosive, mais tous les Burundais doivent s'asseoir ensemble dans un dialogue inclusif.
Il y a un certain nombre de préoccupations et des attentes, aussi bien de la part de la population que de la part de la société civile, de la part des autorités. Ces attentes permettent de mettre en exergue qu'il faut qu'il y ait la mise en place de ce dialogue inclusif, ce dialogue qui permettra effectivement de mettre face à face toutes les parties prenantes et peut-être à partir de ce dialogue dégager ce que j'appellerais le climat d'apaisement.
Un des experts rendra compte au Conseil des droits de l'homme des premières conclusions de l'enquête. Le 21 mars prochain, une autre équipe d'observateurs des droits de l'homme sera aussi déployée prochainement, tandis que 3 experts présenteront un rapport final au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en septembre prochain. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Élection en Congo-Brazzaville, le candidat à la présidentielle du 20 mars, Jean-Marie Michel Mokoko, dénonce l'ingérence de la police dans le déroulement de sa campagne électorale. Ce général, ancien collaborateur du président Denis Sassou Nguesso, mais passé maintenant à l'opposition, fait en effet l'objet de poursuites de la part des services de la police alors qu'il doit aller à l'intérieur du pays pour battre campagne. Il a donc demandé que ces poursuites soient suspendues jusqu'à la fin du processus électoral. On écoute le général Mokoko au micro de notre correspondant à Brazzaville, Nguelan Goussou.
Dans un État qui se respecte, lorsque nous sommes en période électorale et qu'un des candidats a vu sa candidature validée, sans que l'action de justice ne soit écartée, parce qu'à ce titre-là, ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on bénéficie d'une immunité, mais la bienséance commanderait que l'on suspende ces interpellations intempestives pour pouvoir laisser le candidat battre campagne librement, puisque je ne quitterai pas le pays. Je peux donner ma parole d'honneur que je ne quitterai pas le pays, puisque je suis allé me mettre moi-même à la disposition de la justice. C'est donc un gage de bonne volonté. Le peuple peut se rendre compte quand même que le 4, je n'ai pas pu battre campagne, qu'on me laisse aller à la rencontre de mes compatriotes, avec qui j'ai beaucoup de choses à partager, de ce qu'eux aussi pensent et de ce qu'eux souhaiteraient voir le prochain président de la République faire pour le bien de ce pays.
Le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidence du Congo, Brazzaville.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, 200 jeunes qui appartenaient à des groupes djihadistes de la région de Mopti, dans le centre du pays, se sont engagés à quitter ces mouvements. L'opération de sensibilisation a été menée par plusieurs notables locaux et des imams. Combien de jeunes ont abandonné les rangs des djihadistes? Idriss Fall a joint Ama Cissé, maire de Togere Kotia, dans la région de Mopti.
Pour le moment, on ne peut pas évaluer puisque ceux qu'on a rencontrés sont en train de rencontrer les autres. C'est un processus qui continue. Certains ont accepté déjà, mais qui ne sont pas encore là, qui sont en train de sensibiliser les autres, qui n'ont pas accepté. Donc, au fur et à mesure, ça augmente, mais on n'a pas un chiffre pour le moment.
Quand vous parlez de processus, vous avez commencé ce travail?
Le processus même a commencé depuis les accords d'Alger. Parallèlement, nous aussi, on a commencé. Donc, depuis ce temps, on est en train de sensibiliser les jeunes pour qu'ils reviennent. C'est un peu long. Depuis les accords d'Alger que nous avons commencé.
Comment est-ce que vous arrivez à identifier ces jeunes?
Ce n'est pas identifié puisque ce sont des gens de nos zones. Ils sont là-bas, ils ne sont pas dans les villages. Dès qu'on a rencontré les premiers, maintenant ce sont les autres, maintenant qu'ils sont en train de les identifier, nous on ne les connaît pas. Ce sont eux qui sont en train de le faire à notre place, après avoir accepté. Donc eux-mêmes, ils voient les autres. Ce sont eux qui sont là-bas, ils se connaissent tous. entre eux.
Et pour la plupart, c'était des jeunes qui faisaient partie du Front de Libération du Massina.
Pas forcément du Front de Libération du Massina, le Front de Libération du Massina, moi, il n'y a pas longtemps que nous avons entendu ça.
Amman Cissé, maire de la localité de Toguéré-Kotia, dans la région de Mopti, au Mali. Au Niger, la campagne électorale pour le second tour des présidentielles prévues pour le 20 mars s'est ouverte aujourd'hui. Elle va durer 10 jours. Le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, y affrontera l'ex-président du Parlement, Ama Amadou, qui est toujours en prison, Nani Talani.
D'après les résultats de la Cour constitutionnelle, le président Issoufou a obtenu plus de 48% contre plus de 17% pour Ama Amadou. Les deux hommes vont s'affronter le 20 mars prochain. Ama Amadou ne pourra pas lui-même battre campagne. Il est en prison à Filengué, au nord de Niamey, depuis novembre 2015, pour une affaire de trafic présumé de bébés. L'heure est aux alliances. Les ténors de l'opposition, notamment Seynou Oumarou, Mamane Ousmane et Amadou Cissé, membres de la coalition pour l'alternance, ont décidé de soutenir Ama Amadou. La COPA 2016 a appelé à faire bloc autour de leur candidat Ama Amadou. Issoufou, qui brigue un second et dernier quinquennat, a obtenu le ralliement de son ex-directeur de cabinet adjoint, Ibrahim Yacouba, crédité de 4%. Plusieurs autres candidats au premier tour, dont Kassoum Mokhtar et Abdoulabo, ont également appelé à voter Issoufou.
Au Sénégal, la campagne pour le référendum du 20 mars est déjà lancée. Le président Macky Sall fait l'objet de vives critiques après son revirement, selon ses détracteurs, sur la réduction de son premier mandat. Idriss Fall.
Le mouvement Yanamar est très remonté contre le président sénégalais. Le président Macky Sall est surtout accusé d'avoir violé sa parole, d'avoir fait un revirement après un engagement ferme et répété à plusieurs reprises qui réduirait son mandat actuel de 7 à 5 ans. Le mois dernier, après avis du Conseil constitutionnel, Macky Sall a dit que cette réduction ne pouvait s'appliquer à son premier mandat. Donc, il restera au pouvoir jusqu'en 2019. Aboubakri Mbodj, secrétaire exécutif de la RADO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme.
D'abord, vous savez qu'en Afrique, la parole est sacrée. Quand on donne un engagement, surtout qu'on n'est pas forcé à parler, c'est lui-même qui a pris de sa propre initiative de ramener son mandat à 5 ans. S'il revient sur sa parole, ça pose un problème du point de vue de l'engagement moral.
Les partisans du président sénégalais ne sont pas du tout de cet avis. Pour eux, Macky Sall a pris rendez-vous avec l'histoire. Djibril Baldé de Benno Bok Yakar, la coalition au pouvoir.
C'est extraordinairement rare de voir en Afrique un président de la République qui propose effectivement à son peuple de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et que ceux qui s'agitent pour dire non, nous sommes en démocratie, les gens peuvent s'exprimer. Mais le plus important, c'est de respecter la volonté du peuple sénégalais. Et je pense que le oui va effectivement l'emporter.
Djibril Baldé, membre de la coalition au pouvoir au Sénégal. Crise migratoire maintenant. Au sommet extraordinaire de Bruxelles, il y a un accord entre l'Union européenne et la Turquie a été ébauché sous l'impulsion de la chancelière allemande Angela Merkel. Un accord censé offrir une réponse à l'afflux de ces migrants vers l'Europe. Miley Segal.
L'accord est régi par le principe du 1 pour 1. Ankara doit reprendre tous les migrants qui ont traversé la mer Égée depuis ses côtes, les migrants économiques et les demandeurs d'asile. Ces derniers devront par la suite déposer leur requête en Turquie pour espérer un accueil dans l'Union européenne. Pour ce faire, la Turquie demande le doublement de 3 à 6 milliards d'euros de l'aide promise par l'Europe. Dans 10 jours, les 17 et 18 mars, les deux parties se réuniront à nouveau pour affiner les détails des propositions avancées. Plusieurs États membres ont exprimé leurs doutes sur la légalité du dispositif, même si la Commission assure que l'accueil respectera toutes les normes internationales liées aux réfugiés. Pourtant, l'expulsion collective d'étrangers est interdite par la Convention européenne des droits de l'homme. Pour Amnesty International, l'accord signe l'arrêt de mort du droit d'asile en Europe. L'UNICEF a rappelé que les enfants constituent 40% des migrants arrivant en Grèce. Depuis le début du conflit syrien, la Turquie reproche à l'UE de fermer ses portes et rappelle qu'elle accueille 2,7 millions de Syriens sur son territoire, ce qui, selon Ankara, lui coûte 10 milliards de dollars. La volonté du gouvernement islamo-conservateur turc est également d'obtenir la levée des visas imposés par les pays de l'espace Schengen à ses citoyens.
Merci pour votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Dans quelques instants, Carrefour avec Eric Manigakiza. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite.